Comment allez-vous, mes chers amis, après une très bonne nuit? Bienvenue à Angle Mort. J'ai beaucoup d'affaires aujourd'hui. Je suis multi-sujet. Hier, j'ai reçu plusieurs messages. J'en reçois tous les jours, mais là, hier, c'était spécial. Puis deux personnes, Luc, entre autres, que je salue, et une autre personne qui m'a demandé d'être « off the record », ce que je respecte, bien entendu. Message très édifiant, très long message, qui tout ça, tu sais. Mais dans les deux cas et d'autres fois, les gens soulignent que Angle Mort, ça leur fait du bien. Entre autres, Luc, il disait « Il m'est arrivé de quoi au travail aujourd'hui? » Puis en revenant en autobus, « J'ai écouté ton podcast, puis ça m'a vraiment fait du bien, je te dis, ce que je trouve fantastique. Et j'adore que vous me le disiez, bien entendu. » Mais c'est un commentaire qui revient souvent, puis ça illustre ce que je vous parle souvent, c'est-à-dire ma notion du sous-texte en communication. C'est-à-dire que quand on se parle, tout le monde, puis je vais vous conter une anecdote par rapport à ça. Quand on se parle, nous autres, on est convaincus de ce qu'on dit puis du message qu'on envoie, pas en termes de pertinence ou de véracité, en termes que moi, ce que je suis en train de vous dire, bien, dans ma tête, il y a un message, il n'y en a pas 12. Il peut y avoir toutes sortes de... Tu sais, on dit qu'il y a la synergologie, là, tu sais. En audio, vous ne me voyez pas, mais le ton de la voix, quand tu parles à quelqu'un, sa posture, tu sais, ça a l'air qu'il y aurait jusqu'à 2000 gestes codifiés, tu sais. La face comme ça, les bras croisés ou pas, bon, blablabla. Puis ça reste à prouver, là, si je sais que ça s'appelle synergologie, mais jusqu'à quel point, bon, bref. Moi, je résume ça plus en disant qu'il y a ce qu'on dit, ce qu'on émet, OK, un message, mais il y a un sous-texte qu'on contrôle pas. Puis, c'est ça que ça me fait penser, les messages que j'ai reçus hier, parce que moi, Angle Mort, c'est pas pantoute un feel-good podcast, là, zéro, là. Pour moi, Angle Mort, c'est un podcast d'opinion et de transparence. C'est que dans un des messages que j'ai reçus hier, quelqu'un disait « Ce que j'aime, c'est à quel point tu es authentique. » Parfait, très beau compliment que je cultive. J'appelle ça, moi, la transparence. Good. Mais en quoi ça fait bien filer quelqu'un qu'un autre soit transparent? Lui, son explication, il n'était pas en train de m'expliquer rien, il parlait, là. C'est moi qui décortique ça ce matin. Il disait, mais parce que quand, exemple, t'explique que toi, tu veux pas rentrer dans une boîte, que tout le monde veut faire rentrer tout le monde dans une boîte, puis que t'as le droit de tirer partout, puis tu payes le prix parce que ça fait un brand, tu sais, ce que je vous explique souvent, ben il dit, moi, il dit, ça me rejoint parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans ma vie que je fais comme ça. Mais ça, comprends-tu, pour moi, c'est... Il y a un côté sous-texte à ça, dans le sens que... Moi, j'ai l'impression que j'intellectualise des affaires, puis que c'est ça, la job. Mais ce que je réalise, c'est que de votre côté, bien, je le réalise pas. C'est toujours de même. C'est plus pour vous l'illustrer. Vous autres, ça se peut que vous pogniez ça, vous faites « Ah, tu vois, ça m'encourage » ou bien telle affaire. Maintenant, je le sais que je suis un profil positif, puis je suis un profil... J'aime ça motiver les gens vers leurs projets. Je me connais, je suis pas un grugeur d'énergie, je suis un donneur d'énergie. Ça, c'était un agenda que j'avais eu à l'Université Laval, ça s'appelait l'agenda étudiant. Puis à chaque jour, il y avait, genre, la pensée du jour. C'était une page par jour dans laquelle tu mettais toutes tes affaires. Puis la page d'après, c'était l'autre, tu sais. Puis il y avait comme ça une pensée du jour. Ça m'avait blasté. J'ai fait crime. C'est donc ben ça. Puis ça, je me souviens pas des mots précis, mais ça revenait à dire les relations, c'est des transferts d'énergie. Puis t'as du monde qui t'en donne, puis t'as du monde qui t'en enlève. Tout. C'est tout. Alors, ils peuvent temporairement te l'enlever parce qu'ils vont pas bien. Ça veut pas dire que « Oh mon Dieu, cette personne-là aujourd'hui gruge mon énergie, va-t'en, mange un char. » Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais il reste que je trouve que c'est un excellent résumé. Parce qu'on se demande des fois « Qu'est-ce qui fait que je suis tombé en amour avec elle? » Puis, ben c'est un transfert d'énergie. Puis là, je ne vous parle pas d'énergie de pierre, là. C'est un transfert d'énergie pas palpable, tu sais, en le sens que c'est énergisant. Il y a des gens énergisants. Bon, ben ça, moi, je sais que je l'ai. Que je suis pas un donneur, tu sais, c'est pas genre « Oh my God, je suis parlé avec Boilard, puis je suis revenu, puis j'avais la tête entre les deux gens. » Mais ça fait pas partie, je pense, que ça fait pas partie de mon offre consciente. Pas à ce point-là, me semble. En tout cas, je trouve ça intéressant. L'anecdote, écoutez ça, pour vous montrer comment c'est fort le sous-texte. Quand je suis arrivé à Montréal, pour Juste pour rire, j'ai rencontré Anthony Cavana, j'ai quitté Juste pour rire après un an et demi, je suis parti à mon compte avec Anthony comme client. C'est de même que c'est devenu Management M. Boilard Inc., qui est ma compagnie encore aujourd'hui. Et j'ai roulé à peu près 6 mois avec Anthony. Je travaillais de chez nous, tout seul, puis tout. Puis c'est parti vite, tu sais. D'un, parce que le gars a un talent incroyable. Puis il avait déjà eu comme un nom, il était sur 100 limites. Puis après ça, il s'était pogné le cul un peu lui-même. Il avait été assez franc avec... Puis il était à sa tablette à Juste pour rire. Donc pour le réallumer, c'était possible. C'est que moi, j'ai eu la chance de pas partir avec un petit nouveau que personne... Tu sais, il y avait quand même eu un début de carrière là, qui avait commencé puis qui avait bien commencé. Fait qu'on s'est comme aligné, si tu veux. Il a fait un gala Juste pour rire, gros standing ovation, tout. Puis là, les affaires se sont mises à décoller. Puis à peu près 6 mois plus tard, je vois Morancy, que j'avais connu avant Anthony avec Antil dans mes shows à l'Université Laval. Puis on se rejoint au Vogue. Donc, qui est un bar qui est fermé maintenant, mais qui était une rue qui croisait la Grande Allée à Québec. C'était le bar quand moi j'étudiais à l'université où j'allais tout le temps. Puis je dis à François, j'ai dit, j'ai commencé à travailler avec François Simard, puis ça fait en sorte que je peux en prendre d'autres, fait que si tu veux, là, on peut partir ensemble, on se fait un deal, puis go. Ça fait que je me souviens, il m'avait mis la main sur l'épaule, parce que lui, il avait été à l'école de l'humour, il venait de faire la tournée Juste pour rire, puis là, c'était fini. Ça fait que là, c'était comme, OK, j'ai tout fait ça, mais what's next? Puis il m'avait mis la main sur l'épaule, puis il avait fait, hey man, il dit, c'est parfait, il dit, c'est exactement ce que je voudrais parce que il dit, je me demandais justement qu'est-ce qui allait arriver. T'sais. C'est des moments déterminants, ça. C'est très déterminant. La première vitesse, c'est la plus tough. Ça fait que le lendemain, j'appelle Jean-Michel, qui avait fait la tournée avec François. La tournée Juste pour rire, c'était les 4 meilleurs de l'école qui partaient faire une tournée d'une 30-40 shows. T'sais. Puis je dis à Jean-Michel, je dis, hey Jean-Michel, je veux juste te dire, hier, j'ai signé avec François en gérance. Fait que là, il y a Anthony, François. Il dit, ah oui, il dit, ça fait vraiment mon affaire. OK, go, good. Bon, il va, puis on part. Bang! C'est que moi, je me ramasse en 6 mois avec Cavana, Antil, Morancy, qui n'étaient pas les gars d'aujourd'hui, mais quand même, tu sais. Puis, je sais pas quand, plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, j'ai aucune idée, mais on est dans mon bureau qui est au Balfour, un édifice qui est... Il y a un genre de 10 étages qui est au coin Saint-Laurent et Prince-Arthur. Donc, il y avait la cafétéria en bas, là, qui était un resto où j'allais à l'occasion. Puis, j'étais en meeting avec Jean-Michel, parce que les gars, ils passaient quand ils voulaient, tu sais. Puis là, on jase dans mon bureau, puis tout. Puis là, ça sort de même, là. J'ai dit, tu sais, Jean-Michel, c'est comme toi quand t'as signé avec moi, là. C'est parce que, tu sais, je venais de signer avec François, puis tu voyais qu'avec Anthony, ça allait bien, puis... Fait que tu t'es... Moi, dans ma tête, c'était la seule explication. Je n'étais pas en train de poser une question. Je lui décrivais ce qui s'est passé dans sa tête. Puis là, il m'a dit, pas pantoute. Il dit, moi, dans ce temps-là, il dit, juste pour me tourner autour, il y avait un autre qui me tournait autour. Mais il dit, toi, on était déjà chum. Je me suis dit, avec toi, je vais être capable de dire les affaires qui me buguent. Parce que ça, c'est Jean-Michel Amarge. Aujourd'hui, peut-être ça a changé, je sais pas. Mais c'était du genre, tu sais, que... Tu sais, sa blonde me demandait la permission pour aller le voir dans les loges. Que j'ai même pas demandé 20 fois. J'ai fait, voyons, Brigitte, qu'est-ce que tu demandes? Mais tu sais, voyez-vous un peu la dynamique, là? Jean-Michel, c'était ça, là. C'était comme, on peut-tu dire ça, tu sais? Marc, c'est mon ami, mais s'il a son chapeau de gérant, puis tu sais, il me disait souvent, ouais, mais toi, quand tu parles, on dirait que c'est fini après. Je peux plus rien dire, tout est dit, le dossier est clos. Tu sais, puis pas comme un reproche de t'es dictateur, mais parce que je m'exprime clair, puis tu sais. Lui, il recevait ça comme, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Ça fait, comprenez-vous comment le sous-texte est fort? Moi, j'étais. Dans ma tête, il y avait une explication. Toi, Jean-Michel, tu m'as vu aller, tu as dit, Marc, c'est le prochain, ça va bien, on se connaît, let's go. C'était pas ça. C'est parce que lui, en plus, comment voulez-vous que j'aille faire ça quand lui, la difficulté qu'il a à connecter avec quelqu'un dans le business, peut-être que pour lui, ça représente une forme d'autorité. Ben, il pensait, puis il avait juste raison, qu'avec moi, il n'y avait pas ce filtre-là, cette barrière-là. Mais moi, dans la vie, je ne l'ai pas, ça. Moi, dans la vie, s'il faut que je parle à lui, j'avance, puis allô, tu sais, je veux dire. Fait que c'est tout ça pour vous dire que, d'un, merci quand vous m'écrivez pour en plus me dire « Hey, j'aime vraiment ça, ton podcast, et ça m'a allumé, ça me fait du bien, ça, écoute, moi, j'en demande pas tant, là, tu sais. » Mais je trouvais ça très intéressant de vous montrer comment le sous-texte, c'est fort, puis qu'on est convaincu de ce qu'on dit, puis que de l'autre bord de la clôture, on sait jamais qu'est-ce qui est pogné de ça. Puis quand on est apprécié, comme quand on est haï, hein, s'il y a du monde qui nous aime pas, des fois, on se dit « Ah, ben oui, c'est sûr, j'ai dit ça » ou « Non, ça peut être des affaires qu'en plus, on contrôle très peu. On contrôle très peu, on peut pas le fameux plaire à tout le monde, c'est banal, mais bon. » Alors, Elisabeth Kreid, qui est Madame Demande Spéciale, m'a demandé aujourd'hui, mais ça allait être un de mes sujets, Amber Heard versus Johnny Depp. Fait que là, ben, je peux vous sortir les classiques. Le propre d'Angle Mort, c'est pas de répéter ce que vous avez entendu ailleurs. La justice, médias sociaux, la blabla. Je vais commencer par vous. Je vais vous expliquer c'est quoi. Okay? C'est un procès au civil. Donc, comme l'écrit Chantal Guy aujourd'hui dans la presse, personne n'a dit coupable, parce que ça, c'est au criminel. Donc, c'est de la diffamation. Je suis pas parfaitement 100% à l'aise avec la notion américaine, mais elle semble être comme ici. Puis, ce que je veux, où je veux porter votre attention, c'est que quand on parle de diffamation, c'est pas obligé d'être faux. La diffamation, le critère principal, parce que c'est comme la liberté d'expression, c'est toujours un petit peu gris, c'est pas « t'as dit quelque chose qui est faux ». C'est de vouloir intentionnellement être malveillant. Hier, le procès, ce que les jurys ont décidé à l'unanimité, c'est que la lettre en 2018 dans le Washington Post que Amber Heard a écrit disant « j'ai été victime de violence conjugale », il y avait un côté là-dedans qui était ouvertement malveillant envers Johnny Depp. C'est ça qui a été jugé. Alors moi, je n'ai même pas d'opinion là-dessus parce que je me fais un malin plaisir de pas dire « c'est lui qui a raison, c'est elle qui a raison ». D'ailleurs, en passant, puis c'est même ça mon message, là, c'est que arrêtez de penser que la justice décrète la vérité. La vérité, là, il y a Amber Heard puis Johnny Depp qui la connaissent. Puis s'il y a d'autres personnes qui la connaissent, bien, c'est de façon accessoire. C'est-à-dire que soit qu'ils ont eu des témoins, ils ont eu des témoignages des deux personnes que je vous parlais, non pas d'une troisième. Puis le système de justice, d'ailleurs, il s'appelle justice, il s'appelle pas le système de vérité. C'est pas... Ah, on a un système où est-ce que le juge décrète la vérité. Non. Il y a des preuves, c'est-à-dire il y a des façons d'amener des faits devant un tribunal. Puis il y a des preuves qui sont admissibles, qui ne sont pas admissibles. Donc, exemple du oui-dire, c'est pas admissible. J'ai entendu dire qu'elle avait fait non. Il faut que tu puisses, soit que tu es un expert, c'est-à-dire en tant que psychologue X, ou que tu as vu, entendu toi. C'est ça, être un témoin. Bon, mais tout ça fait en sorte qu'on a décidé socialement, au cours de l'histoire, qu'il allait avoir un bonhomme qui s'appelle un juge ou un jury qui vont dire, à la lumière de comment ça marche, les preuves, puis de la cause qui est devant nous, on juge que c'est lui qui a dit la vraie affaire. Mais on ne dit pas « voici la vraie affaire ». Donc, je suis désolé, mais hier... Il n'y a aucune vérité qui a été réglée. Ça fait que tous ceux qui disent « Ouais, c'est lui, c'est elle », taisez-vous. Faites juste dire « Voici le verdict ». OK, ça, c'est un. Deuxièmement, ça montre à quel point il y a de la confusion maintenant. À vrai dire, il y a toujours eu de la confusion. C'est pour ça que je trouvais que la campagne de Dominique Anglade, j'en ai parlé au 93, était en termes de format et en termes de message. Sur le fond, bon, les libéraux cherchent à avoir des axes de com, mais c'est une campagne extrêmement efficace. Pourquoi? J'ai l'impression que ça vise les 12 ans. Puis je vous le dis, c'est quand tu veux parler à tout le monde, là, tout le monde, moi, le monde qui me suit, sont allés à l'école. Fait que c'est complètement une autre histoire. Mais si tu dis, OK, moi, là, je suis à TVA, puis aujourd'hui, je veux que tout le monde comprenne, 12 ans. Si le kid de 12 ans n'a pas compris, je suis obligé de te dire. C'est que là, tu vois qu'il y en a qui ont mêlé... La cancel culture, MeToo, les crimes, toute la patente. La seule affaire que j'ai à dire par rapport à ça, qui est une victoire, une défaite, ça dépend bien juste du point de vue. C'est que MeToo, qui a assaini l'air, je le répète, c'était pas une façon de se substituer à la justice. Le fameux « on vous croit », ben non, on vous croit pas. On n'est pas dans une société où tu as juste à le dire pour qu'on te croit. Je viens de vous expliquer comment ça marche, les règles de preuve et tout. Ça ne changera jamais. On peut changer l'accueil, par exemple. Parce que, manifestement, il semble avoir un problème quand une fille veut dire « Hey, moi, je veux porter plainte. » Ça fait que ça, cette initiative-là qui a été portée par les quatre parties ici, là, de faire un... Ça va commencer à Québec, d'ailleurs. Ou est-ce que c'est un genre de guichet unique? Ça, moi, je trouve ça extrêmement pertinent. Mais non, MeToo n'a pas vocation de dire « Ah, on a maintenant deux voix, voilà. On peut aller au poste de police dire « J'ai été agressé » ou on peut prendre son Instagram, bien entendu, puis dire « Hey, Paul Desmarais, savez-vous quoi? Il m'a pogné le cuillère, puis t'as la fin. » Ça fait que MeToo, au début, là, je remarquais, c'était anonyme. C'était vraiment MeToo, c'était moi aussi, il m'est arrivé de quoi quand j'étais à l'école, tout. Puis les filles, c'était comme s'ils levaient la main en disant « Moi aussi, je fais partie de cette gang-là. » Mais il y avait une petite gêne à dire « c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle ». Puis le « c'est lui, c'est elle », ben le système a toujours dit « ben oui, viens porter plainte, ben voyons, on part ». Puis là, il y a des stats qui disent que finalement, ça marche. Il y en a d'autres qui disent « ça marche pas ». C'est pas mon dossier, il y a du monde qui font avancer ça, bravo, c'est parfait. Mais je fais juste vous dire que hier, ce qui est arrivé, c'est que, attends une minute, tu veux écrire une lettre, tu veux dire « hey, lui, il a été ci, il a fait ça, la patente », ben c'est pas un buffet. C'est pas genre, ben moi, tout à coup, je trouve ça, puis on y va. Ça fait que, pardon, je sais que c'est très en mode, on vous croit, là, mais moi, non, on vous croit pas. Ni toi, ni l'autre, ni celui qui dit ça, ni le pauvre là-bas, ni le riche homme d'affaires en avion. Si vous avez une revendication qui est régulée par un système de justice au civil ou au criminel, ben voilà. Ça passe par ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et est-ce que le système est mal adapté? Je pense que oui. Et je trouve que les initiatives, je souscris, je lève la main. Oui, let's go les filles. Changez le système si vous trouvez qu'à quelque part, il fait mal la job. Il ne fera jamais la job parfaite. Mais voilà hier, qu'est-ce qui arrive quand tout à coup, on décide que non, le système, moi, ne fait pas mon affaire. Puis voilà, je suis une grande vedette. Le New York Post, le Washington Post va se faire un plaisir de voir mon nom circuler avec une lettre que j'ai écrite. Fantastique. Puis coucou, 15 millions plus tard, voilà, fais-moi un chèque. Ça fait que je me réjouis pas de leur malheur, zéro. Puis peut-être que c'est 100% elle qui a raison. Mais ce qu'il faut retenir, là, c'est vraiment que ce n'est pas... C'était en train de devenir une autre façon de procéder pour porter plainte. Puis c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà. Je veux souligner aussi, en terminant, quelque chose qui me frappe depuis quelques jours. Moi, là, vous le savez, je suis pas particulièrement nationaliste, mais je comprends ce mouvement-là. Je comprends ce mouvement-là. Mais ça m'habite pas, tu sais, ça m'habite pas. Je suis même pas fier d'être Québécois. Tu sais, je peux pas dire « je suis fier d'être Québécois ». Tu sais, c'est... Je suis vraiment fier. C'est un peuple fantastique. Puis non. Zéro honte. Ça ressemble à... Avec une culture différente à certains égards, notamment au niveau de la langue, on ressemble à d'autres Canadiens. On n'est pas si loin des démocrates américains. On n'est pas très Trump, je pense. Mais on n'est pas à gauche toute. On n'est pas français. Tu sais, il y a quelque chose au Québec. Mais de vous dire honnêtement, moi, je suis fier d'être Québécois, non. Mais je comprends quelqu'un qui est fier d'être Québécois. Je comprends tout le monde qui est fier. L'Indonésien, il est fier. Je comprends qu'à quelque part, d'essayer d'avoir une fierté. François Legault joue là-dessus, puis je trouve que c'est tout à fait légitime. Mais je remarque comment il y a à gauche des figures très claires. Frédéric Bérard, Émilie Nicolas ce matin dans Le Devoir, qui, pour des raisons vraiment pas claires, ça vient les chercher, cette fierté-là québécoise. C'est comme si c'est quelque chose de risible. Puis je me dis, sont-tu pareils avec toutes les nationalités? C'est-tu risible d'être fier d'être haïtien, par exemple? Tu vois, j'ai l'impression que non. Mais c'est comme être fier. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est comme ça m'a sauté dessus, là. Émilie Nicolas, là, elle écrit là, son article, puis c'est tout... au lieu d'appeler ça, mettons, les Gaulois, elle appelle ça les fiers, avec un F majuscule. Puis là, les fiers disaient qu'il fallait être fier, de fierté. Elle, là, ce mot-là, c'est venu la chercher à mort. Puis elle finit en disant, si on continue de même, on va rentrer la face dans le mur. Mais j'aimerais ça qu'elle définisse mur. Parce que si mur, c'est l'indépendance du Québec, c'est l'indépendance du Québec, pardon, mais c'est une option qui n'est pas entrée dans le mur pour ceux qui y croient. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je l'ai dit mille fois. C'est pas que je pense que le Québec manque de ce qu'il faut. C'est un vote de non-confiance envers les Québécois. Jamais je vais me partir à mon compte avec eux autres. Zéro. Les Québécois sont pas prêts à prendre... Les Québécois, c'est des adolescents qui vivent dans le sous-sol à Justin Trudeau. Voilà. Puis quand vient le temps de dire « OK, d'abord, part en appart. Hein? » « Ouais, non, mon chèque. » Ça fait que... Mais quand même, il y a quelque chose, je trouve, qui est border... méprisant, c'est très négatif, cette idée-là de rire de la fierté. C'est comme, pensez à ça. Dans quel autre domaine ces gens-là riraient de la fierté? La fierté de dire, moi, je suis un Boilard. Je trouve que c'est une belle famille, les Boilards. Ah, t'es cave! Nulle part. Ça serait partout. La fierté, c'est quelque chose qu'on respecte. Puis bizarrement, de quoi on parle de fierté québécoise? Puis là, c'est teinté de tout, là, ça part en couille. Oui, ça veut dire exclusion, identité. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui gratte ces gens-là, ça vient les chercher. Alors que moi, je le répète, je suis ouvertement zéro indépendantiste, pas particulièrement nationaliste, mais j'accepte que des gens le soient, je respecte ça, ici comme partout. Non, ça a l'air qu'ici, c'est interdit. C'est très spécial, ça. Je vous laisse là-dessus. Bye.